La première, 17h-18h, Galaxy BD, Thierry Bellefoy.
Bienvenue dans Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques. Cette semaine, notre vaisseau se pose d'abord au Panama, mais pour mieux nous parler d'un immense écrivain belge. Nous parlerons avec José Luis Bocquet et Javiré de Barrio Negro, qui est une adaptation d'un roman de Simenon. Nous nous poserons ensuite chez nous, en Belgique, juste avant que notre vaisseau y soit bloqué pour toujours. Je reçois Romain Renard et Olivier Tollet, les scénaristes de Off. Ils ont enlevé la prise et regardé la Belgique se débattre face à une panne de courant à l'échelle mondiale.
Galaxy BD
sur la première.
Et avant de plonger dans ces deux livres, faisons connaissance avec les auteurs. Commençons par vous, José Luis Bocquet, bonjour.
Bonjour.
Le grand public vous connaît surtout pour vos biographies de femmes oubliées de l'histoire, hein, dessinées par Catel. Il y a eu Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, pour ne citer que celle-là. Toutes des succès de librairie, mais vous avez aussi été longuement éditeur chez Dupuis, vous êtes écrivain, biographe de Goscinny, spécialiste de Franquin, et j'en passe. Vous êtes tombé dans la potion graphique tout petit, comme au Graphics, on va dire comme ça.
J'avoue.
D'ailleurs, José Luis Bocquet, vous publiez votre premier scénario de bande dessinée à 16 ans seulement. C'est ça, hein,
Non, un petit 17. Peu plus tard quand même, dans Spirou, j'ai la chance. Ouais. C'est Serge Honoré, mon ami qui publie ses premiers scénarios à 16 ans dans Spirou. Moi, c'est un petit peu plus tard, j'ai 18 ans.
Allez, 18. C'était
avec
Le Privé d'Hollywood.
Le Privé d'Hollywood,
avec
exactement.
Berthet. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce premier scénario?
Alors, c'est un scénario que je n'écris pas tout seul. C'est un scénario que j'écris avec François Rivière. François Rivière qui, à l'époque, est déjà le scénariste de Flock. Ils ont fait ensemble Le Rendez-vous de Seven Oaks et leur bande dessinée anglophile suivante. En fait, c'est à Bruxelles que tout commence. Je dois avoir 17 ans, un truc comme ça. On est un dîner Peut-être que je viens juste de louper mon bac. Il n'est pas impossible que je viens juste de louper mon bac. Je dis, oh là là, mais moi, je suis bon à rien. J'arrive jamais à faire quoi que ce soit. Et François me dit, mais si, tu devrais faire des scénarios de bande dessinée. Ah bon? Et voilà comment. Il me dit, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Je devais être en train de lire Kaminsky, qui était un auteur de la série noire, qui racontait des histoires de polar à Hollywood. Et je dis, bah, Hollywood, un polar. Tu vois, le gars qui a vraiment une grosse imagination, qui retombe juste sur le bouquin qu'il a lu la veille. Et François me dit, eh ben, c'est ce que nous allons faire. Et c'est comme ça, en fait. Pour moi, c'est un livre d'apprentissage. Il m'apprend à structurer une histoire, il m'apprend à dialoguer. Ah bon, il suffit d'écrire comme ça et tout à coup, on a des personnages qui parlent. J'apprends à faire un scénario de bande dessinée, tout simplement. Donc, Et puis, le travail de Berthet est absolument démentiel. Hein. Il doit juste sortir du fameux atelier R. Il est en pleine possession. Il est à la fois dans la ligne médiane du franco-belge et aussi de toutes les expériences graphiques qui sont en train de se faire à l'atelier R. Tu nous diras plus tard ce que c'est que l'atelier.
Là, il n'y a pas d'autre moyen de passer à Romain Renard que de parler de l'atelier R. Romain Renard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fils de l'atelier R, si je puis dire, avec un R comme recherche, mais aussi comme Renard. Claude Renard, votre père, était le professeur de dessin des années 70. Mais oui. Voilà, ça c'est un peu votre ADN, on va dire. Vous êtes tombé, vous aussi, dans la potion quand vous étiez tout petit. Et on sent, Romain, que depuis la série Melville, qui vous a fait connaître, qui est aventure monumentale en plusieurs livres et en plus encore peut-être avec Revoir Comanche, hein, qui vous a valu une pluie de prix, et avec ce Off que vous co-signez avec Olivier Tollet, que le cinéma est quand même quelque chose qui vous titille terriblement. Et on se dit, mais quelqu'un qui a vécu comme ça, les deux pieds dans la BD, qu'est-ce qui regarde le cinéma à ce point-là avec des yeux aussi, oh, ça a l'air bien.
Ben parce que ce que j'ai reçu en héritage de mon père, c'est sa vision, et une vision qui était totalement ouverte à tous les autres médiums. Il était ouvert à la sculpture, au dessin en général, mais aussi au théâtre et aussi un petit peu au cinéma. Et donc, le fait de raconter des histoires et de les raconter d'une manière animée ou filmée ou dessinée, pour moi, est du même ressort. C'est de raconter absolument une histoire.
Mmh. Et le cinéma, c'est mieux que la bande dessinée?
Non. Non. La bande dessinée, c'est... Comment expliquer ça?
Mais quand vous serez reçu à France Inter, Romain Renard, et que ce sera pour votre premier film, et oui, vous répondrez à la même question, bah oui, beaucoup mieux.
Ah bah oui, bah ça je serais sur France Inter, donc bah voilà, je serais beaucoup plus intelligent déjà sur France Inter.
Javieré, vous faites partie de cette scène graphique espagnole qui défile semaine après semaine à ce micro. Hein. Ces dernières semaines, ce sont des hispanophones les uns derrière les autres. On vous a découvert grâce à une collaboration avec le regretté Franck Giroux, il y a un peu moins de 15 ans. Depuis, on vous a retrouvé avec d'autres scénaristes, notamment aujourd'hui avec José-Louis Boquet, adaptateur d'œuvres littéraires aussi, ou en solo. Qu'est-ce qui guide vos choix de dessinateur ?
Surtout des histoires qui me touchent. J'ai envie toujours de raconter des histoires et de transmettre l'émotion des personnages. C'est surtout des personnages qui m'attirent à raconter son histoire. Alors je dois trouver quelque chose qui m'arrive, qui me touche. Je ne trouve un autre mot pour les décrire. C'est ça, c'est des personnages les plus importants, toujours plus que des contextes. Et c'est ça. Et à niveau d'auteur personnel, j'ai beaucoup d'envie d'écrire toujours. Mais j'ai envie aussi de collaborer avec des scénaristes, de travailler en équipe. C'est les deux chemins que j'aime beaucoup.
Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez à la fois le scénariste et à la fois l'adaptation littéraire que vous avez déjà pratiquée, puisque c'est du Simenon revisité par José-Louis Boquet qui vous amène ici derrière le micro. Olivier Tollet, vous êtes le dernier à présenter aujourd'hui. Vous êtes réalisateur. On vous doit notamment 3 courts-métrages. Et il y a aussi cette fameuse série éternelle que les spectatrices et spectateurs de la RTBF pourront découvrir en avril. Ils sont tellement impatients. Et moi aussi d'ailleurs. Quelles sont les différences principales à vos yeux entre l'écriture cinématographique ou télévisuelle et celle de la bande dessinée ?
Ben, en fait, c'était d'abord, avant toute chose, pour moi, une découverte, parce que c'était pas spécialement prévu que je mette un pied dans la porte, comme ça, du monde de la bande dessinée. C'est plutôt Romain qui m'y a invité, pour des raisons un peu de contingence, de production. On avait un projet de série qui était off, qui a été arrêté pour des raisons budgétaires, principalement, de faisabilité. Et donc, en fait, comme on avait travaillé pendant pas mal de temps, j'ai un an et demi, sur des arches narratives, des personnages, des envies, des situations... On avait beaucoup de matériel narratif et littéraire, avec un canevas qui était celui de la série télé, mais on s'est dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc, on a adapté en monde dessiné, et là, c'était un peu une découverte pour moi, complètement, en termes de dramaturgie, d'écriture, de structuration du récit, de se dire, bon, on part d'un matériel qui est séquencé quand même, qui est visuel, qui suscite un peu des images dans le chef des personnes qui pourraient lire le scénario, mais la structuration, notamment avec le système de double page, etc., que je ne connaissais pas concrètement, que j'avais probablement intégré en tant que lecteur inconsciemment, c'était une espèce de port d'entrée vers une nouvelle forme d'écriture qui était pour moi super nouvelle et très exaltante, parce que, comme le dit souvent Romain, c'est vrai que quand on écrit pour les séries télé, on a énormément d'interlocuteurs autour de la table, on a beaucoup de contingences matérielles, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc on est souvent empêché. Et là, pour le coup, on est souvent exalté et encouragé, notamment par l'éditeur, à y aller à fond. Donc ça, pour moi, c'était une espèce de... On le disait souvent, hein, c'était une cour de récréation, quoi. C'était super.
Eh bien, on va vous retrouver pour parler de ce livre off, dont vous signez le scénario à deux, donc Olivier Tollet et Romain Renard. Et tout d'abord, ben, Romain, celles et ceux qui vous connaissent savent que vous êtes aussi musicien et qu'à chacun de vos albums correspond une bande-son, généralement proposée sur des plateformes musicales. Alors celle-ci, elle a servi juste pour la première séance de dédicace de votre livre. Ouais, vous faites des bandes-son pour votre dédicace, vous, c'est pas mal. Alors elle va nous mettre dans l'ambiance, c'est parti.
Galaxy BD.
Alors je précise que l'ambiance, en fait, au départ, elle est plutôt sympa.
Oui.
Elle est un peu douce, comme ça, presque mélancolique, parce que le monde ne va pas si mal au début de votre livre qui s'appelle Off. Mais celles et ceux qui vous connaissent, Romain Renard, savent que c'est le crépuscule qui vous intéresse, pas la lumière.
Je voulais venir, mais à 1000 à l'heure. Mais oui. En fait, l'histoire de ce livre, tout est parti de quelque chose que j'ai découvert. Est dans une bande dessinée, justement, dans la série de la Petite Bédéthèque des Savoirs, ouais. Qui était éditée au Lombard, et c'était sur un livre consacré à Internet. Et dans ce livre, on parle de l'effet de Carrington, l'événement de Carrington, pardon. Et j'apprends à ce moment-là qu'il y a eu une tempête solaire d'une intensité sans précédent qui a complètement bouleversé la planète au milieu du 19e siècle. Et on est au tout début de l'électricité, c'est vraiment très balbutiant l'électricité. Les télégraphes sont à peine là et en fait, tout explose. tout explose. Il y a même des agents télégraphiques qu'on retrouve électrocutés sur leur machine. Il y a des papiers buvards qui prennent feu dans les tours de New York. On a des aurores boréales jusqu'à Cuba. À l'époque, personne ne sait ce qu'il se passe. On va l'apprendre un petit peu plus tard par un astronome amateur qui est ce fameux Carrington et qui va découvrir que c'était dû à une tempête solaire. Et l'article se termine en disant que, en fait, à l'heure actuelle, maintenant, si une tempête solaire de même intensité réapparaissait et nous touchait de nouveau, en fait, on n'est pas prêt.
Ce serait la merde.
On n'est pas prêt.
Je le dis tout bas, hein, c'est des mots qu'on ne peut pas dire à la radio, mais c'est quand même un peu ça. Ce serait la catastrophe.
C'est un petit peu la catastrophe et c'est le sujet de notre exploration. Et c'est en partant de ce constat-là que j'étais voir Olivier, je dis, écoutez, si on racontait ça...
Voilà, et aujourd'hui, ça donne off. Après une première tentative, Olivier l'a dit, de série télévisée, un très gros roman graphique, hein, très épais, il fait quoi, 300 pages, un truc comme ça
300,
même plus,
48,
pas loin de 350 pages.
Les 40 dernières pages.
En couverture, on reconnaît, nous les Belges, un bâtiment bien connu de la place Flagey, l'INR, l'Institut National de Radiodiffusion, ancêtre de la RTBF. Et toute l'histoire se passe précisément en Belgique. Olivier, c'était important d'ancrer cela dans des endroits que vous connaissiez, avec aussi des références institutionnel, hein, parce qu'il va y avoir toute une partie de politique fiction. On retrouve une première ministre qui ressemble très très fort à Sophie Wilmès pendant le Covid. Enfin, bon, on se doute bien que tout ça avait un intérêt au départ.
Oui, en fait, c'était vraiment... Alors, à la fois, on était de nouveau exaltés par l'éditeur qui nous poussait à rendre ça très local. Nous, on a voulu rendre ça très local parce que c'est un peu ce qu'on disait, un peu comme Axio, mec romain, à chaque fois, quand c'est local, c'est global. C'est-à-dire, quand on est sincère, quand on ancre un récit dans une réalité... structurelle de société dans un climat social défini avec des choses qui nous sont très propres, qui nous sont très personnelles et qui en plus sont illustrées par des lieux emblématiques. On est sincère, nous, en tant qu'auteur, et dès lors qu'on est sincère, on rend, je trouve, le récit fluide, organique et juste. Et donc c'était pour nous très important. Et comme il est question en fait d'effondrement, on a voulu passer quand même un peu de temps à voir comment nos sociétés, nos structures, nos états, les personnes individuellement aussi sont en mesure d'encaisser un tel choc.
Et donc, c'est la fin d'un monde, hein.
Voilà.
Ouais, complètement... Rien moins.
Oui, oui.
La
oui,
fin
oui.
du monde tel qu'on le connaît, parce que à plusieurs endroits du livre, on dit que peut-être ça va être réparé dans les mois qui viennent. C'est pas irrémédiable, oui. Mais que de toute façon, c'est foutu.
C'est foutu. En fait, c'est tellement fragile. C'est quand on s'intéresse à ce phénomène, on se rend compte à quel point finalement notre société est très fragile. Elle ne tient qu'à un fil. Ce qui nous sépare du 18e siècle, c'est une prise de courant. C'est ça. Et quand elle ne marche plus, on y retrouve. Mais on n'est plus habitué à ça. On n'est plus habitué à perdre notre confort. Et à partir du moment où on perd notre confort, on commence à devenir un petit peu tendu, un petit peu agressif.
C'est peu dire.
Oui, c'est tout, mais
par rapport à ce qu'on a développé dans le livre.
Certains réflexes identitaires même peuvent ressurgir. En tout cas, les peurs commencent à provoquer ce qui va être en effet domino de fin du monde, effectivement. Fin de ce monde-là.
Il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui s'étonnent, se disent « Tiens, Romain Renard, on s'attendait à ce qu'il dessine lui-même. Vous êtes un auteur complet, très connu pour justement être extrêmement cohérent dans vos univers, entre les histoires que vous proposez, un type de dessin très particulier, je l'ai dit, des bandes originales, de la musique, même du film, puisque vous jouez sur scène certains de vos livres, enfin ou des prolongements de certains de vos livres en spectacle. Donc pourquoi ne pas avoir dessiné ce off ?
Il n'y avait pas assez de sapin.
C'est vrai que ça se passe pas dans le Grand Nord canadien.
Non. Mais en fait, tout simplement parce que j'étais sur autre chose. Quand on a commencé avec Olivier travailler sur cette adaptation en bande dessinée, moi, je terminais le quatrième tome de Melville. Je commençais plus ou moins à faire revoir comment. Il y a un film d'animation qui est en préparation aussi. Donc voilà.
Et la série Éternelle qui était déjà.
Et la série Éternelle qui commençait déjà aussi son développement.
Dans l'écriture, en ce moment-là, on faisait les deux en parallèle.
Voilà, je suis très gourmand, mais là c'était pas possible. Et puis on a eu beaucoup de chance de rencontrer notre dessinateur, Patrice Regla-Vizavona, qui a relevé le défi, parce que c'était pas simple. Hein. Moi, il y a des choses que j'aurais pas pu dessiner, vraiment.
Il a fait ses études à Saint-Luc-Bruxelles, c'est ça, hein ?
Oui, mais alors pas en bande dessinée.
Oui, mais il connaît quand même Bruxelles. Oui, parce que c'est étonnant de justesse par rapport à tout ce qui est endroit, uniforme.
Après, il est très perfectionniste. Il s'est énormément renseigné. On l'a beaucoup donné de documentation. Il est très, très demandeur. Et il nous poussait un peu à bout dans le bon sens du terme, mais dans le fait de lui fournir de la documentation ultra, ultra précise. Après, il a vécu à Bruxelles 10 ans aussi. Ça a aidé pas mal quand même.
José-Louis Bocquet, vous avez lu ce livre ?
Absolument. Et moi, je suis depuis tout petit un fan de récits post-apo, donc post-apocalyptique. Après, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce que je trouve formidable, c'est... tu l'as pitché, hein ? On débranche. Voilà. C'est-à-dire que souvent, les récits des années 70 ou 80, ce post-apo, c'était... après. Et on savait jamais pourquoi ni comment. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, on voit la déliquescence de la société et sur une idée hyper simple, effectivement, et surtout crédible. Ce qui veut dire que tu lis le livre en te disant « tout cela est possible ». Par ailleurs, le fait que vous ayez, que ça a été d'abord un projet audiovisuel, fait que l'histoire est, bien sûr, vous l'avez adaptée de manière à ce qu'on soit sur l'ellipse et le rythme de la bande dessinée. Mais en même temps, l'imbrication, la structure très particulière d'une série, évidemment, je suis un grand amateur de séries, comme tout le monde aujourd'hui, donne un rythme extrêmement fort, extrêmement dynamique au récit, où on passe d'un personnage à un autre avec des... Voilà. Tout ça est très excitant. Et évidemment... ah non, je peux pas pitcher. Mais enfin bon, quand même, un avion qui s'écroule au centre de Bruxelles, je comprends que dès les 10 premières pages, les producteurs aient fait mais enfin, bon, c'est on ne pourrait pas plutôt avoir un triporteur qui tomberait dans la Meuse.
Oui, en l'occurrence, c'est quand même, on va le dire, parce que c'est dans les 10 premières pages, c'est l'avion royal qui se crache.
Voilà, on peut,
on peut pas le faire en version triporteur.
Quand même, mais quand même, oui. Mais,
le roi était-il dedans ? Lisez off, vous le saurez. Ce scénario, quand vous le revoyez maintenant en bande dessinée, vous n'avez aucun regret de l'avoir transformé dans cette matière-là ?
Alors, aucun regret, aucun regret. Bon, on adore ce livre, on est très fiers. Et en fait, d'être passé par la bande dessinée a enrichi notre récit, je pense, télévisuel, vraiment.
On a passé plus de temps avec des personnages, on a arrêté de se restreindre en termes d'imagination graphique. On a déployé des arches narratives qu'on avait dû enterrer, on a ressuscité des personnages. C'était vraiment exaltant, hein. Honnêtement, je crois qu'on a bien fait d'en faire une bande dessinée.
Off, c'est quelque chose de très crédible, finalement. Est-ce que ça veut dire que ce que vous dites là, c'est « attention, ça pourrait arriver » ou « faites-vous peur, ça fait tellement du bien ».
Il y a même des moments où on a été dépassé. Par la réalité. Quand on a commencé à écrire il y a 5-6 ans, les premières traces, en tout cas, les premières arches de Off, on ne parlait pas encore d'invasion russe, on ne parlait pas des montées du populisme, on ne parlait pas du changement de la politique des médias qu'on peut voir en France à l'heure actuelle, de l'emprise du groupe Bolloré, par exemple, sur la culture et sur les médias, et la force de frappe qu'ils peuvent avoir. Ça, on essayait d'extrapoler les choses. En fait, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas trop, trop loin, finalement, de tout ça. Il y a quelques signes avant-coureurs qui sont là, qui sont là, tapis dans l'ombre, qui nous montrent, en tout cas, quelques lumières d'alerte qui sont allumées.
On a même hésité, en fait, à dire, est-ce qu'on garde certains paramètres de l'histoire ? Parce qu'on s'est dit, on va être trop contingent avec l'actualité. Notamment, je ne veux pas spoiler des trucs, mais il y a une scène d'attaque à un moment donné dans une institution emblématique en Belgique qui ressemble à une attaque qui s'est passée aux États-Unis. En fait, on l'avait écrite avant, donc on s'est dit, est-ce qu'on la garde ?
Qui n'est pas une attaque de banque,
Banque. En fait, on a gardé un certain nombre de choses qui étaient là, qu'on avait un peu pressenties, qui étaient dans l'air. Hein. On est des citoyens un peu éclairés, on s'est dit, voilà, ça va nous tomber dessus de toute façon. Donc.
Disons qu'avec l'ère Trump, Trump 2 que l'on a maintenant, on est déjà dans la fiction, dans la science-fiction. On est tous sidérés chaque jour d'ouvrir son fil d'actualité, de se rendre compte que, il y a une nouvelle histoire qui arrive, qui commence.
Voilà, alors pourquoi pas lire Off, donc ce gros, gros roman graphique, 350 pages, signé Romain Renard, Olivier Tollé et Patrice Regla-Visavona, qui est donc le dessinateur que vous avez choisi pour porter cette histoire au dessin. C'est paru aux éditions Daniel Maguen. Je voulais juste terminer avec vous, Romain Renard. Vous avez fait une adaptation littéraire américaine il y a quand même déjà assez longtemps, c'était en 2011.
Ouais, ouais.
Voilà, et si je suis bien renseigné, vous êtes en train d'en faire une autre.
Mais oui, en fait, je refais la même.
Voilà.
Je refais la même. C'est un livre qui, à la base, était une adaptation de Daniel Woodrell, qui était édité chez Rivage Noir. Et le livre est paru maintenant aux éditions Gale Master. Et les éditions de Lombard sont en train de travailler avec les éditions Gale Master pour faire des adaptations. Et très naïvement, mais je dis vraiment très très naïvement, je me suis dit, oh mais tiens, puisque j'avais récupéré les droits de ce livre,
de la première version,
pourquoi ne pas remettre ça dans une nouvelle collection. Et puis je me suis relu, et je me suis dit, bah, je vais peut-être revoir une case ou deux, puis trois, puis cinq.
En fait, vous refaites tout.
Et en fait, je refais tout.
Voilà, ce garçon est fou. Merci Romain Renard, vous nous passez le témoin pour parler des adaptations littéraires, puisque c'est avec une adaptation littéraire qu'on va continuer cette émission tout à l'heure. Ce sera celle de Simenon, avec Josely Boquet et Javiret. Mais c'est surtout ce dont va nous parler Cynthia Deschamps.
Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques.
Bonjour Cynthia, vous vous êtes donc penchée sur ces adaptations dont sont très friands les auteurs de bande dessinée, mais surtout les éditeurs de bande dessinée.
Oui, bonjour Thierry. Vous avez sûrement dû remarquer, comme moi, que les rayons des librairies débordent d'adaptations. Parmi les gros succès de ces dernières années, on peut citer Sa Majesté des Mouches, Le Petit Prince, Au revoir là-haut, Le Journal d'Anne Frank ou encore Les Piliers de la Terre. Mais attention, toutes les œuvres sont loin d'être adaptables. C'est en tout cas ce que pense Al Kant, le scénariste des Piliers de la Terre, un roman historique écrit par Ken Follett et dont l'adaptation en BD est sortie chez Glénat.
Il y a vraiment des romans qui sont faits pour être adaptés en BD. Les Piliers de la Terre, vraiment, quand je l'ai lu directement, dès la première scène, en fait, la première scène, c'est une scène de pendaison qu'on devine injuste, et il y a une femme enceinte qui arrive et qui maudit un prêtre et un chevalier et un moine qui s'en va après avoir décapité un coq. Je trouvais ça tellement visuel directement, vraiment dès les premières pages, je me suis dit ça c'est fait pour être en BD. Bien évidemment, il y a des romans qui sont beaucoup moins visuels, on va dire, hein, qui peuvent être tout à fait agréables à lire et passionnants à lire, mais qui sont moins visuels.
Car l'une des forces de la BD, évidemment, c'est de montrer les choses. Et c'est aussi ce qui plaît au lecteur.
Les gens nous disent souvent qu'ils retrouvent le plaisir de la lecture du roman, avec l'avantage qu'on voit notamment cette fameuse cathédrale, hein, dont la construction est au centre du roman. Et ça, c'est un avantage de la BD, évidemment, dans ce cas-là, c'est qu'on peut vraiment montrer concrètement à quoi ressemble un chantier médiéval. C'est pas toujours évident de se faire des images quand on lit le roman. Et ça, c'est la force de la BD, évidemment.
Une autre raison pour laquelle les lecteurs choisissent la BD plutôt que l'œuvre originale, c'est que nous vivons dans une société de l'image. Que ce soit sur nos smartphones, sur les panneaux publicitaires dans la rue ou à la télé, l'image est partout. Il y a donc une sorte de familiarité qui s'est installée et qui facilite la découverte et la compréhension de tout un tas de sujets. Jean-Louis Tilleul est professeur émérite de l'UC Louvain et expert en bande dessinée.
L'image, c'est un contact plus immédiat, plus direct, peut-être plus facile, quoique... que le texte, c'est une façon de prendre davantage et mieux par là même, semble-t-il, un public qui voudrait justement se sensibiliser à des questions tout à fait dans l'ordre du temps. Il n'y a pas que la bande dessinée, c'est aussi le cinéma, hein. Le docu-fiction, c'est quelque chose qui s'est imposé désormais dans nos programmes. Et on voit bien comment est-ce que la réalité historique et la fiction se mélangent et pour peut-être mieux saisir un public qui, face à la seule réalité historique, serait peut-être resté en retrait.
Et ça, les éditeurs l'ont bien compris. L'adaptation BD, c'est le moyen de toucher un lectorat important. Écoutons à ce propos Louis Houillard, il est l'auteur de L'économie du livre et professeur à l'ULB.
Soit vous touchez un lectorat, lecteur de bande dessinée, qui peut-être ne se tournera pas vers ses œuvres littéraires et qui vont ainsi y accéder par le biais de la bande dessinée. Mais vous pouvez aussi éventuellement toucher un autre type de lectorat, qui est un lectorat qui, de base, ne se tournerait pas vers une bande dessinée, mais qui, parce qu'il y a tel auteur, telle adaptation, font le choix de sauter le pas et de lire une bande dessinée.
C'est aussi pour ça que les éditeurs vont souvent privilégier l'adaptation d'un livre qui a déjà eu beaucoup de succès et que tout le monde connaît. Ça permet de réduire le risque d'échec. Mais attention, hein, c'est pas que du positif. Les maisons d'édition doivent évidemment payer pour acquérir les droits d'adaptation. Et ces droits seront plus élevés si on veut adapter un best-seller. Louis Houillard.
Il faut être sûr, lorsque vous faites l'acquisition de ces droits d'adaptation, eh bien, d'être ensuite capable de rentabiliser cette opération en écoulant un très grand nombre d'exemplaires de votre contenu en bande dessinée. Ou alors, cette adaptation, elle peut aussi avoir lieu à l'intérieur des groupes éditoriaux. Les exemples connus, c'est par exemple les éditions Albin Michel qui vont créer leur propre collection de bandes dessinées littéraires pour tout simplement proposer à leurs auteurs de leur catalogue eh bien, des adaptations en BD à l'intérieur même du groupe éditorial.
Certains éditeurs BD se sont eux aussi spécialisés dans les adaptations, notamment via les collections. Deux des plus connus ont vu le jour autour de 2007, c'est Ex Libris chez Delcourt avec une centaine d'albums et il y a aussi les grands classiques de la littérature en bande dessinée chez Glénat et Le Monde. Mais le phénomène est loin d'être nouveau. Jean-Louis Tilleul.
On retrouve de l'adaptation d'œuvres littéraires en bande dessinée dès les premiers soubresauts qui ne sont pas encore ceux de la bande dessinée, qu'on appelle l'histoire illustrée à la fin du 19e siècle. Puis ça va évoluer et dans les années 50, là on est avec la bande dessinée classique. À l'époque, c'est la presse spécialisée de bande dessinée qui en fait fait l'actualité. Et on retrouve par exemple dans un magazine comme Fillette, en 1957, une adaptation en bande dessinée du célèbre roman de Charles Dickens, David Copperfield. Et puis ben voilà, quand on arrive dans les années 80, la presse spécialisée ne se porte pas bien. Ce sont les albums de bande dessinée qui vont prendre le relais.
Mais c'est vraiment à partir de 2010 que les adaptations en bande dessinée connaissent un boom. Et le mouvement tend à s'accélérer depuis 2020 avec quelques-unes qui sont elles-mêmes devenues des best-sellers.
Merci Cynthia, on vous retrouve tout à l'heure après avoir parlé d'une adaptation, en l'occurrence celle de Simenon avec nos deux invités.
Je ne m'aime pas. Je ne me considère pas comme un homme agréable à fréquenter. J'ai horreur de me fréquenter moi-même, car si j'aimais me fréquenter, je ne serais pas romancier. Un romancier est un monsieur, je ne dirais pas qu'il se déteste, mais qui n'est pas du tout content de lui, qui est si peu content de lui qu'il est obligé d'en sortir tout le temps pour créer des personnages.
Voilà, une des quelques centaines d'heures d'interview données par notre ami Simenon, Georges Simenon. Vous les avez toutes écoutées, José-Louis Bouquet, jadis.
J'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de produire pour France Culture une émission de 8 heures. Non mais à l'époque, France Culture, il faisait des 8 heures sur Georges Simenon. Et donc, ça impliquait d'écouter absolument tous les enregistrements radiophoniques de la RTBF. Donc bien évidemment, j'ai entendu déjà l'extrait que vous venez de passer. Et c'était assez intéressant d'écouter Simenon. L'extrait que vous donnez, c'est quelqu'un qui parle énormément de son travail sans être introspectif, qui donne des exemples. Et surtout, son exemple, c'est de dire oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et oui, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, et non pas écrivaillon, comme le disait Queneau. Et c'est toute la leçon de Simenon. 200 romans populaires sous pseudonyme en 10 ans. Hein, tout ça pour arriver à faire du roman semi-littéraire. Ça va être au début des années 30, Maigret, qui pour la première fois signe de son propre nom, pour ensuite en arriver au roman dur. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que après avoir produit ces 8 heures...
Précisément, parce que ces romans durs, ce sont ceux que vous êtes en train d'adapter.
Mais qu'auparavant, avant d'adapter des romans de Simenon, surtout, en ayant quitté cette émission de France Culture... Ben, je me suis mis à écrire mes premières séries noires en me disant « Mais il a raison, Simenon. En fait, il suffit de bosser. Vas-y, bosse. » Donc moi, comme Simenon, j'étais prêt à faire un roman tous les 3 mois s'il le fallait. Mais la série noire m'a dit « Oh, hop. Non, mais un par an, ce sera bien. »
Voilà. Du coup, vous êtes
donc
devenu...
je dois tout à Simenon.
Vous êtes devenu scénariste de bande dessinée. Là, on n'a pas de limite. On peut écrire tant qu'on veut. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre première adaptation de Simenon, puisque ce livre, Barrio Negro, il vient dans une collection. Cette collection, vous la menez avec Jean-Luc Fromental, et c'est une série d'auteurs, de dessinateurs qui sont invités à vous rejoindre. Vous êtes les deux adaptateurs. Alors ici, il y a un petit changement de titre.
Alors il y a un petit changement de titre.
Vu à l'époque.
Voilà, alors c'est vrai que le titre original, c'est Quartier Nègre, mais c'est un roman qui a été choisi par Ravi, ici présent, puisque l'idée, c'est que chacun des dessinateurs doit évidemment trouver un livre qui corresponde à sa vision de Simenon et aux atmosphères qu'il sera capable de reproduire et surtout les émotions qu'il sera capable de provoquer chez le lecteur. Et chez Ravi, c'était Barrio Negro. Donc,
puisqu'il l'a fait, vu en espagnol.
Je l'ai lu en espagnol et en fait, c'est en casualité parce que moi, j'ai lu que deux romans de Simenon dans ma vie. Et tous les deux, il y a plus de 20 années que je l'ai lu. Et à l'époque où j'étais très curieux et je lisais beaucoup de choses qui m'arrivaient sans filtre. Et dans ma bibliothèque, dans la bibliothèque de ma ville, j'ai trouvé Barrio Negro. Le nom de Simenon me disait quelque chose, mais je n'étais pas un expert, ni je ne connaissais pas son côté policier. Et alors j'ai lu Barrio Negro, j'ai adoré. Et 20 années après, j'ai la proposition de dessiner un album qui est une adaptation de des romans durs. Et j'ai demandé si Barrio Negro était un des romans durs, et voilà, c'est...
Et boum, c'était le bon. Ça. Et ça marche quand même mieux que Quartier Nègre aujourd'hui, il faut me le dire.
Exactement.
On est en 2026.
Et c'est resté le titre, évidemment, dans la mesure où c'était comme ça que le connaissait Ravi et que Gorz lui a dit « Mais tu sais, en français, ça veut dire Quartier Nègre et autant noir, négro en espagnol et plutôt neutre, nègre en France aujourd'hui, c'est juste impossible. Ouais. » Voilà. Et donc, très rapidement, et de toute façon, ça a toujours été notre titre de travail, Barrio Negro. C'est difficile de passer son temps à dire « Alors, t'en es où de Quartier Nègre ?» Alors là, je suis en train de faire Quartier Nègre. Non, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, bien sûr, pour nos propres oreilles, pour notre propre pensée, c'est comment travailler sur un livre dont c'est le titre. Alors que tout ce que ça raconte,
j'allais dire,
le
c'est pas du tout un livre raciste. Il faut quand même le signaler d'emblée. C'est un livre qui va à l'encontre du racisme, puisque Georges Simenon nous emmène à Panama. Ce fameux quartier se trouve à Panama City, mais pas du tout en Afrique. Et il va y plonger un jeune garçon plein de promesses, qui vient de se marier, qui croit qu'il va aller travailler là-bas. D'ailleurs, c'est pas à Panama qu'il va, c'est un peu plus loin. Et qui pense que la vie va être facile. Et puis, lorsqu'il arrive à Panama, qui est une étape pour aller un peu plus loin, je crois que c'est en Guyane qu'il doit aller, il se rend compte que la compagnie qu'il a engagée a fait faillite et il n'y a plus de sous. Il va rester là et il va vivre là-bas complètement à l'encontre de la manière dont vivent les Européens, les Blancs, ou les Américains d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'Américains là-bas à ce moment-là.
Il y a une double façon de pouvoir lire l'histoire. Ne pas oublier que c'est écrit au début des années 1930, et que d'une certaine manière, pour le lectorat de l'époque, il est en train de raconter l'histoire d'une déchéance. L'histoire d'un homme qui, finalement, c'était un terme qu'employait Simenon, sans canac. Hein, c'est-à-dire que tout à coup, il fait fi des contingences bourgeoises, des contraintes de la société, pour un vrai lâcher-prise. Ça, c'est un terme que j'utilise aujourd'hui. Mais évidemment, dans les années 30, on se dit ce Simenon est en train de nous raconter l'histoire d'une déchéance. C'est une grande thématique tout à fait passionnante chez Simenon, d'ailleurs, qui est la fuite du monde. Il y a même un de ses romans qui s'appelle « La fuite de Monsieur Monde ». Voilà. Et qui raconte ça, c'est-à-dire tout à coup, à un moment donné... Le mec, il rentre pas chez lui. Il s'en va. Ça suffit, cette vie. Et c'est tout le propos, finalement, de notre personnage qui, face aux circonstances, plutôt que d'accepter la pression de la société bourgeoise, entre guillemets, parce qu'il est quand même au milieu de gangsters qui sont embourgeoisés, qui aimeraient bien le tirer vers eux, lui, tout à coup, lâche l'affaire. Soit c'est l'histoire d'une chute, soit c'est l'histoire du saut de l'ange. Tout dépend de quel point de vue de la société, de quelle manière on regarde la société.
Ravi Rey, qu'est-ce qui vous a plu à l'époque et qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans ce roman ? Est-ce que c'est la même chose d'abord ? Ou est-ce qu'en 20 ans, ça a changé ?
Non, c'est la même chose. C'est un peu ça qu'a raconté José Luis. C'est art du personnage principal. J'ai très clair c'est quoi mon interprétation de cette possible interprétation. Et c'est plus le côté plus de trouver sa liberté. Je dirais jusque ça. Il trouve sa liberté. Et à l'époque, j'avais 20 années et je devais chercher un peu ma propre chemin. Et ça m'a influencé beaucoup parce que c'est vrai, on a tout le temps des pressions sociales, des choses qu'on doit faire. Ces romans, pour moi, parlent de trouver ton propre chemin, même si la pression, le contexte est très lourd, très fort. Alors, je pense que c'est ça qui m'a touché beaucoup. Et après, l'histoire d'amour, de désamour et d'amour comme dessinateur, c'est un cadeau dessiner ces émotions de ces personnages si profonds comme Dupuche. Alors, c'est l'histoire d'amour surtout.
Une histoire d'amour dans laquelle, évidemment, notre personnage ne va pas faire ce qu'on attend de lui. Bien au contraire, il va se retrouver carrément mis au banc.
Oui, parce que c'est une histoire d'amour avec une descendante, enfin la fille d'ouvriers importés d'Afrique, on peut le dire comme ça, vraiment importés d'Afrique pour construire le canal. Et elle, c'est une descendante, c'est Véronique, elle a un nom français puisqu'elle descend d'Antillais, mais surtout, elle est noire. Alors non seulement le gars, il décide de plus être ingénieur et plutôt d'aller un petit peu picoler, surtout d'aller travailler sur le port sans cravate. Le mec, non seulement il n'a pas de cravate, mais en plus il est avec une femme noire. Et c'est ça l'histoire d'amour qui est formidable dans ce roman de Simenon. Et assez rare.
Qui date rare des années 30. Hein,
Oui, et qu'on parle, donc c'est un livre totalement scandaleux pour l'époque et d'une incroyable modernité encore aujourd'hui.
Ce n'est pas votre premier scénario dans cette collection, José-Louis, et ce ne sera pas le dernier. Au-delà du fait d'avoir des dessinateurs qui choisissent des romans, vous avez aussi vos préférés, vous ?
Ah, est-ce que j'ai des romans ? Simenon, c'est un continent, voilà. Et je pense que quand on aime un continent, on aime aussi bien les petites criques secrètes que les pics élevés. Voilà, Simenon, il s'embrasse comme ça.
L'air de ne pas se mouiller.
Non, pas l'air de ne pas se mouiller, mais c'est plutôt... Je vous rappelle que cette émission de 8 heures France Culture, tout à coup, il a fallu que du jour au lendemain, je devienne un pur simenonien. Donc ça veut dire que tout à coup, en deux mois, j'ai lu 150 romans. Enfin, je vivais dans Simenon. Ce qui fait que pour moi, tout se mélange. Simenon, c'est ce continent, et grâce aux dessinateurs et dessinatrices avec lesquels je peux travailler, tout à coup, c'est comme si je faisais un petit focus, vous savez, le truc Google Earth, et puis là, tiens, je vais aller sur ce truc-là. Ah oui, c'est vrai, Panama, avec Simenon, formidable.
Il faut dire que le précédent, c'était avec Edith, et que c'était dans les brumes du Nord.
Oui,
même du Limbourg.
Dans le Limbourg.
Voilà, il y a quelques mois à peine qu'il est...
La maison du canal, oui.
Ouais. Romain Renard, qu'est-ce que vous pensez de ces adaptations, vous qui avez pratiqué l'adaptation justement de votre côté, on en parlait tout à l'heure.
Je trouve cette collection magnifique et je suis en train de découvrir votre livre, à tous les deux, que je trouve merveilleux, super beau, vraiment. Et où on est à l'encontre même du cliché de Simenon qu'on pourrait qualifier de littérature noire. Et en fait, ce que je vois ici, c'est quelque chose de très solaire, très très beau. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de regarder le visage des dessinateurs et de retrouver le physique des dessinateurs dans les dessins, dans les pages. Donc je trouve ça très très beau, en tout cas.
On a une grande chance avec cette collection, c'est que chaque livre est un livre d'auteur. C'est-à-dire que Jean-Luc et moi, alors pourquoi c'est toujours nous ? Parce que d'abord, on travaille sur Simenon, on connaît bien Simenon depuis très longtemps, que John nous fait confiance.
John Simenon, le fils de Simenon, qui est partie prenante de l'affaire.
Qui est même moteur depuis le début sur le projet. Mais nous ne sommes que des traducteurs. Et toute l'idée, c'est d'arriver à donner une traduction bande dessinée pour que les auteurs, les dessinateurs, dessinatrices, fassent leur travail d'auteur. Voilà. C'est une matière qui leur est donnée, et je crois qu'il n'y a pas deux livres qui se ressemblent, et je pense que chacun a donné pleine mesure. C'est pas... Il y a une véritable implication. Quand Ravi dit que c'est un livre qu'il a influencé, Barrio Negro, ça veut dire qu'il est capable de le dessiner et d'en faire un livre. C'est le sien. C'est un roman dessiné de Simenon, mais c'est le livre de Ravi.
Vous avez entendu la rubrique tout à l'heure de Cynthia.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt de faire de la bande dessinée à partir de la littérature ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime trop dessiner, ou est-ce que c'est vraiment intéressant et important ?
De mon côté, je peux parler du point de vue d'un auteur, de ma singularité. J'avais besoin d'écrire. Mais je ne me sentais pas, je n'avais pas encore la sécurité dans mon écriture. Et j'ai commencé à adapter pour gagner cette sécurité. Alors la toute première adaptation que j'ai faite, ça a été en commande d'une maison d'édition espagnole qui est une adaptation d'un best-seller qui a marché très bien en Espagne. Mais j'ai accepté, mais avec la condition d'être libre de faire ce que je voulais faire. Et j'ai fait une adaptation presque muette, c'est-à-dire une adaptation visuelle. Alors j'ai gagné beaucoup de confiance dans la narration visuelle. La deuxième adaptation que j'ai fait, c'est une pièce de théâtre, Un ennemi du peuple, et ça m'a donné la capacité d'écrire, de pratiquer l'écriture de dialogue, parce que c'était une transposition du langage du théâtre à la bande dessinée. Alors, après, j'ai gagné confiance pour faire mon premier scénario qui c'est sur le livre qui s'appelait « On l'appelait Bebeto ». Et c'est ça. Pour moi, l'adaptation, ça a été une manière de grandir comme auteur. Ce n'est pas le point de vue du marché, ce n'est pas le point de vue de l'auteur. Ouais.
Mais c'est très intéressant ce que dit Ravi, parce qu'une adaptation n'a de sens que s'il peut s'inscrire logiquement dans la bibliographie de l'auteur. Si c'est un pas de côté, ça n'a pas de sens. Si c'est quelque chose qui est réellement l'écho et le prolongement et l'appropriation de l'auteur, du dessinateur, oui, bien sûr, formidable. Si c'est juste parce que tout à coup, il y a un bon plan à faire, est-ce qu'on... Voilà. Alors peut-être pour énormément d'argent. Bon, d'accord. Mais sinon, voilà. je crois qu'il n'y a pas
c'est ce que fait Romain Renard, puisqu'il fait deux fois la même.
C'est-à-dire qu'on doit avoir, je crois, une... Je crois, oui, c'est fou. Je crois qu'on doit avoir... Voilà, c'est ça, c'est une... C'est un livre qu'on doit s'approprier et mettre dans sa propre bibliographie. Et là, ça a du sens.
Merci à tous les deux. Donc, c'est Barrio Negro, le titre désormais espagnol et français de Simenon dans cette collection chez Dargo, José Luis Boquet et Javier. Merci d'être venus nous en parler tous les deux dans un instant. Quelques derniers plans de lecture pour la semaine. Et on va commencer par vous, Javier. Qu'est-ce que vous nous proposez comme lecture cette semaine ?
Oui, c'est un album que c'est une nouveauté. C'est un recueil d'histoires courtes. C'est Étrange créature de Bianca Vagnarelli, une dessinatrice, illustratrice italienne que j'adore. Il y a beaucoup de temps qui a travaillé pour New Yorker et plein de presse et qui a un style très expérimental et qui sont des histoires très intimistes. Et que c'est génial, j'adore. C'est sur Gallimard.
Merci, Cynthia.
Moi, c'est pour rester dans le thème des adaptations de romans en BD. Je vais vous parler de Moi d'abord, qui a été publié en septembre dernier par les éditions Point. C'est le premier roman et best-seller de l'autrice française Catherine Pancol. Et il a été adapté en roman graphique par Véro Caso au scénario et Lou Zago au dessin.
Véro Caso qu'on a reçu il y a peu, d'ailleurs, pour Minimouche.
J'avais pas la chance d'être là.
Ah non.
Mais ici, donc, ce que je trouve intéressant, c'est que même si le roman d'origine date d'il y a presque 50 ans, mais je trouve qu'il reste furieusement d'actualité parce qu'il raconte l'histoire de Sophie. C'est une jeune fille de 18 ans qui découvre l'amour et la sexualité. Elle se cherche encore et pourtant, elle se heurte déjà aux injonctions de la société patriarcale qui veut l'enfermer dans le rôle d'épouse et de mère. Mais moi d'abord, comme le titre le dit bien... C'est finalement une ode à la liberté et à l'affirmation de soi. Et je trouve que le dessin coloré, doux, tout en rondeur et expressif, traduit bien cette émancipation féminine, pas si facile à atteindre.
Merci. Alors, il me reste à demander à Romain Renard s'il a une proposition à nous faire.
Oui, Les accords imparfaits, Cécile Dupuis.
Chez
Casterman, qui est un très très beau livre d'une sensibilité et d'une poésie magnifique sur le délitement d'un couple et sur le monde intérieur et sur tout ce qui se fabrique dans ce délitement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé.
Écrit par un écrivain qui fait son premier scénario en bande dessinée et dont la voix off est quand même très très prenante au début. On a presque l'impression que c'est de la littérature et en fait il y a une créativité graphique qui est fabuleuse.
Oui, totalement.
Alors moi, puisque c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, j'ai amené le livre des amoureux, les deux grands amoureux, les Roméo et Juliette de la bande dessinée. Ils s'appellent Juliette et Bernard. Ce sont évidemment les héros de Sambre de Bernard Isler. Sambre qui s'offre une nouvelle jeunesse dans cette œuvre au rouge, une nouvelle intégrale qui vient de paraître. L'œuvre au rouge, livre 1, il y en aura 3. Et le troisième sera... La conclusion, après 40 ans de cette série Sambre, qui raconte donc au départ les amours de ces deux personnages adolescents qui sont poursuivis par une malédiction, et ça va se poursuivre sur plusieurs générations. C'est paru chez Glénat, livre 1, 1847-1848 sont les quatre premiers albums, dans une nouvelle version, plus petit format, un tout petit peu plus petit, celui que voulait Bernard au départ. Et surtout, les couleurs sont totalement tranchées désormais, puisque c'est noir, blanc, rouge. Mais les couleurs ont été totalement restaurées. Merci à José-Louis Boquet, à Javier, Romain Renard, Olivier Tollet, Cynthia Deschamps et bien sûr à la réalisation Joachim de Coster, aidé par Laurent Serianoff. Bonne fin de journée sur la première.
Galaxie BD sur la première.